Good Morning Business, le débrief de la matinale.
Et il est 8h38 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Le débrief de la matinale ce matin, c'est avec Virginie Robert, avec Marc Fiorentino, avec Baptiste Brossard-Kimmel et avec Pauline Tadevin. Pauline, il faut qu'on comprenne, allez rapidement, pas dans le détail forcément, le dossier casino. Il y a eu du nouveau hier soir, il y a des gens qui sortent mais qui restent pas très loin.
Oui, alors pour résumer peut-être, on est de plus en plus sur un dossier très financier. Il y a deux offres qui sont sur la table pour la reprise de casino qui est extrêmement endettée, et qui est d'ailleurs en procédure de conciliation depuis environ deux semaines. Il y a une offre de Daniel Kretinsky qui a mis 1 milliard d'euros sur la table, et depuis hier soir, il y a l'offre de Xavier Niel, Mathieu Pigas et Moïse Alexandre Zouari, qui crée un véhicule d'investissement et qui compte s'appuyer sur des créanciers pour lever comme objectif final plus d'un milliard d'euros, donc pour concurrencer l'offre de Daniel Kretinsky. Mais on est vraiment rentré dans une séquence plus financière qu'industrielle aujourd'hui à date sur ce dossier casino.
Baptiste Brossard-Kimmel, vous suivez pour Sia Partner le retail. C'est quoi? C'est sortir pour mieux revenir du côté de Teract?
En tout cas, c'est ce que je comprends hier quand je lis le communiqué de presse. Après, je partage la remarque sur le côté financier. Quand on voit Teract sortir, et on peut se dire, mince, est-ce qu'on n'arrive pas à un combat financier entre les deux? Et je pense que c'est le piège dans lequel le trio Niel Pigas-Zouari pourrait tomber, parce que finalement, aujourd'hui, s'il y a match financier, on a quoi, 300 millions d'un côté, 1 milliard de l'autre côté.
Kretinsky.
Merci. Donc ça, je pense que ça ne matche pas. Il faut qu'il y ait le projet industriel derrière, et c'est le projet qui avait Teract. Le projet d'intégration verticale de la filière proche des agriculteurs. Vous aviez le patron d'Invivo qui était venu ici il y a quelques temps.
Il revient lundi.
Voilà, présenter son projet. Le trio a travaillé sur le projet. Donc on peut s'attendre à des similitudes sur le projet industriel dans le nouveau.
C'est pas abandonné, effectivement. Ils vont revenir, ils vont revenir. Ce projet, il est cité dans les communiqués de Casino comme de Teract hier soir, en disant qu'ils vont s'appuyer sur Teract pour leur projet industriel.
Marc nous dit depuis des semaines, si j'écoute bien, que le sujet est avant tout financier.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème industriel chez Casino. C'est ce que j'essaye d'expliquer et ce que Naouri dit aussi, d'ailleurs. Il n'y a pas de problème industriel, il y a un problème financier. Et donc il faut prendre les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, essayer de réfléchir avec des partenariats pour le développement de casinos dans l'avenir avec des filiales, tout ça, c'est très compliqué. Aujourd'hui, ce qu'on a, on a un problème de dette. Cette dette, il faut la restructurer. Pour la restructurer, il faut de l'argent frais. Il faut une augmentation de capital massive, au moins d'un milliard. Et à partir du moment où on aura cette augmentation de capital, on aura cette restructuration, chez Casino, c'est une pépite. Et à l'intérieur de Casino, il y a des pépites. Donc la stratégie industrielle, on verra plus tard. Pour l'instant, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une course. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il n'y ait pas plus de candidats à la reprise. C'est ça le plus étonnant, en fait. Ce qui est plus étonnant, c'est que ce ne soit pas une bataille. Parce que Casino, ça devrait être une bataille.
Parce que ça reste une pépite.
Évidemment, compte tenu de sa valorisation actuelle et compte tenu de la sensibilité. Parce qu'il faut rappeler quand même que les principales banques ont déjà provisionné une grosse partie de la dette Casino. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire une offre Casino peut le racheter à bon prix parce qu'il peut négocier la dette dans des conditions absolument incroyables. Et Casino, je le répète, est une pépite qui est pleine de pépites comme Monoprix.
Certains ont commencé à dégainer. On a vu Intermarché qui a déjà racheté juste avant le début de la conciliation quasiment 200 magasins, envisage d'en racheter davantage. Après, c'est vrai qu'il y a un silence assez assourdissant en ce moment du côté d'autres grands acteurs qu'on pourrait imaginer intéressés par le dossier. On pense à Carrefour, notamment, à qui on pose la question et qui dit que pour l'instant, il n'y a pas de dossier sur la table. Mais forcément, ce genre de dossier-là...
Mais peut-être que justement, la partie...
Il n'y a pas de bataille boursière.
Marc Fiorentino, peut-être la partie industrielle dont vous parlez, c'est ça qui fait peur à la concurrence qui, pour l'instant, a du mal à se positionner.
En fait, il n'y a pas de sujet industriel. On peut toujours améliorer, mais aujourd'hui, Casino est un problème financier. Et surtout à l'intérieur de Casino, on sait d'ores et déjà qu'il va falloir céder des actifs. C'est-à-dire on sait qu'il va y avoir une partie qui va être une partie de dépeçage, et puis une autre partie qui va être un petit casino réduit, sur lequel il y a aujourd'hui énormément de potentiel. S'il n'y avait pas tout ce qu'il y a au-dessus de Casino, la dette et les holdings au-dessus, il n'y aurait pas de problème Casino.
Mais moi, j'avais compris qu'au départ, ils ne voulaient pas justement céder les pépites, que Monoprix, tout ça n'était pas dans le deal.
Oui, alors ça...
Il faudra le faire.
Comme il fallait pas céder les participations au Brésil,
et qu'on finit par le faire.
Les participations en Colombie, on a fini par le faire.
Baptiste Brossard-Kimmel.
Oui, juste pour revenir sur cet élément-là, en fait, ce qui est pour moi intéressant, et d'ailleurs ça rejoint ce que vous dites Marc, c'est que finalement il y a un sujet sur le trio Niel Zouari, Pigas, essayent d'entraîner dans leur véhicule d'investissement les différents créanciers. On voit bien que c'est la seule solution. Le projet industriel, il est là pour embellir le projet, il est là pour donner du sens et un peu de publicité au projet. Par contre, sans les créanciers et sans l'appui des créanciers dans ce véhicule d'investissement, on voit bien qu'il...
Mais c'est presque pour le débat public, en fait, c'est que ça fait mieux de dire qu'on a un projet industriel que dire qu'on a un projet financier. Pour nous, presque, les journalistes.
Je crois que pas que les journalistes, mais je pense que ça compte. Oui, oui.
C'est de l'image.
C'est plutôt pour l'image, parce qu'il n'y a pas de...
Après, il faut voir aussi comment se positionneront les pouvoirs publics. On a vu que dans d'autres dossiers sur la distribution, ils ont été prompts à réagir il y a quelques années encore. Je pense à Carrefour Couche-Tard. À l'époque, ils avaient bien réagi. Pour l'instant, ils surveillent, ils scrutent de près. On nous dit du côté de Bercy que c'est un dossier privé et pour l'instant on s'en occupe pas. Il y a 55 000 emplois en jeu en France.
Ah oui. 200 000 au niveau mondial.
Virginie, je sais que vous avez la tête aux États-Unis, mais est-ce que vous regardez Casino de loin?
De loin, non, mais c'est Couche-Tard. On parlait de... Effectivement, parce que je m'étais même posé la question en me disant, est-ce que Couche-Tard serait un acteur, bon, c'est un acteur canadien, mais très présent dans le monde et aux États-Unis, serait intéressé, est-ce qu'il va se manifester? Mais il semblerait que ça ne soit pas le cas, puisque eux sont dans une logique d'acquisition, mais avec un business model très particulier.
Après l'épisode Carrefour, ça me paraît peu probable, non?
Ça a été une déception pour eux.
Oui.
Bon. Les seuls casinos que Virginie connaît, c'est les casinos de Las Vegas.
Oui. Justement,
on en revient toujours aux États-Unis.
Il vous fait une réputation, Virginie, ne vous laissez pas faire. On va partir justement à Cupertino, puisque c'était l'événement de la semaine Apple, avec le lancement de ce, on ne dit pas casque de réalité virtuelle, on dit ordinateur spatial. On écoute Tim Cook qui en débrief derrière.
C'est déjà un grand jour. Mais nous avons encore une dernière chose. J'ai le plaisir de vous dévoiler une toute nouvelle plateforme de réalité augmentée et un nouveau produit révolutionnaire.
Ce one more thing, Virginie Robert, c'est un changement total, c'est un game changer ou c'est juste un petit gadget?
Ah non, c'est pas un gadget, ça c'est clair. Mais il a dit le mot important là, c'est plateforme. C'est vraiment ça. C'est que, en fait, ce qui s'est passé, d'abord, c'était une conférence pour les développeurs. Et là, il a confié, j'allais dire, le bijou. Bon, il y a un effet waouh, effectivement, parce que, bon, on ne l'a pas essayé, hein, donc, mais.
Ceux qui l'ont essayé disent que c'est bluffant.
Oui, absolument. Parce que là, il y a quand même cette réalité, cette double, la virtualité qui se met avec la réalité. Et donc, ça, c'est quand même très, très confortable. Mais ce qui est important, c'est que ces plateformes, il faut savoir que Apple, quand il confie, effectivement, un objet au développeur, c'est son savoir-faire. C'est ça. Par rapport à un Meta qui a lancé son Oculus, il y a plusieurs déjà versions, Apple, son métier, c'est... Je vous confie quelque chose et vous allez développer. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait dire même d'habitude, sur un objet, un device d'Apple, il y a une application centrale. Là, il n'y a pas, mais ça va venir. C'est ça qui est important. Donc, c'est un coup d'envoi pour moi. Donc, c'est le début. On est dans la version bêta. Mais indéniablement, c'est l'ouverture sur plein de choses. Et on sait que là, Apple sait faire. Mais le sujet, c'est pas de savoir combien ils vont en vendre, même à $3,500.
On s'en fiche de ça.
Mais oui, d'ailleurs, ça m'a fait un petit peu sourire parce que Apple, je me souviens, 2007, lancement de l'iPhone, tout le monde disait ouais, mais $500, mais je vais jamais pouvoir acheter $500, c'est trop cher, c'était shocking. Et voilà, on sait très bien. Et après, souvenez-vous, la montre, eh ben, ouais. Ils en vendent 50 millions par an. Donc oui, c'est important.
Je l'utilise pas, mais j'en ai une.
Eh ben voilà.
Mais c'est ça le problème.
Il faut l'utiliser. Donc oui, c'est vraiment un sujet intéressant.
Non, et puis là, de ce qu'on a vu, c'est pas en fait un énième casque de réalité virtuelle. C'est-à-dire il y a cette marque, cette identité Apple qui fait que c'est vraiment quelque chose de nouveau, basé sur des technologies qu'on connaissait déjà, mais avec plus d'innovation encore.
C'est ça, il y a beaucoup d'innovation. Alors là, ils y ont travaillé depuis très longtemps, hein, parce qu'on en parle depuis très longtemps et ils viennent après les autres. Mais ça, c'est très habituel chez Apple. Et d'ailleurs, à noter, moi, c'est que depuis que lundi, cette fameuse keynote, en quelque sorte, on n'a pas eu de sujet sur la privacy, parce que c'est quand même un sujet. Vous imaginez, vous mettez le masque et puis finalement il y a votre belle-mère qui arrive dans la... On peut exploiter les datas et ça, ouais. Le sujet des datas. Et donc en fait, c'est quoi? On voit bien, il y a une espèce de in Apple we trust.
Oui,
c'est même pas un sujet.
Marc, vous êtes couché tard pour regarder la keynote?
Non, pas du tout, mais je trouve que c'est effectivement passionnant et je rejoins ce que dit Virginie. C'est vrai qu'on est on est rentré dans une nouvelle dimension. Et à chaque fois, il y a ce scepticisme, on a l'habitude. Et à chaque fois, c'est une réussite phénoménale. Je rappelle que ça s'appelle Vision Pro. Ouais. Donc, c'est fait pour les pros. Mmh. Donc, c'est effectivement une plateforme destinée à un développement pour des nouveaux usages qu'il va falloir inventer. Mais Apple sait inventer de nouveaux usages. Et de toute façon, la bourse, pour qu'il y a salué ça, et puis après, c'est redescendu très rapidement. Bon, on va continuer à faire progresser le cours d'Apple. On est quand même autour de 3000 milliards de dollars, je voudrais rappeler ça, 3000 milliards de dollars. C'est juste phénoménal, on n'a jamais vu ça dans... Jamais. Non. C'est historique.
Eden Rennes, on n'en est pas encore là. Et pourtant, la valorisation d'Eden Rennes...
Ça, c'est un sujet qui me passionne, mais je sais que...
Non, ça, je sais que ça vous passionne pas. Non, mais une boîte qui sort et qui rentre au CAC 40, ça n'a, pour vous, ça n'a pas d'impact. Bah, figurez-vous quand même que chez Eden Rennes, il va y avoir une petite fête. On était avec le patron d'Eden Rennes tout à l'heure, on le réécoute.
C'est la reconnaissance du changement de dimension d'Edenred. La deuxième chose que ça change, c'est peut-être une marque employeur un petit peu plus forte, et on en a besoin puisqu'on va recruter en 2023 à peu près 3000 personnes. Mmh. Et donc, probablement qu'être au CAC 40 va faire un petit peu plus parler de nous et donner un peu plus envie de nous rejoindre partout dans le monde. Ensuite, pour développer Edenred, il faut investir. Pour investir, il faut des ressources d'investissement. Mmh. Et donc, aller chercher sur les marchés de capitaux de l'argent fait partie du développement d'Edenred en étant au CAC 40, probablement plus d'accès et un peu moins cher.
Bon, c'est une bonne nouvelle, non, Marc? Vous n'êtes peut-être pas allé à la fête, mais ça change quoi?
J'ai pas été invité.
Mais ça change quoi pour une boîte?
Je sais pas, casino, peut-être, non?
Je sais pas. Bah, c'est vrai qu'ils ont du cash, peut-être de quoi faire.
Non,
ça change quoi pour une boîte d'aller au CAC?
Bon, ça donne plus de visibilité, on rentre dans les indices, enfin, il y a tout un tas, il y a un impact sur la liquidité, enfin, il y a tout un tas d'impacts mécaniques. À partir du moment où on rentre dans un indice, on rentre dans toute la gestion algorithmique, et donc à partir de là, on se retrouve avec des volumes qui correspondent plus aux fondamentaux de l'entreprise, mais qui correspondent au CAC 40. Mmh. C'est-à-dire, quand on va acheter le CAC 40, eh bien, on va être obligé d'acheter de l'Edenred automatiquement. Donc voilà, donc pour l'entreprise, c'est vrai que c'est très important. Mais enfin, avec l'âge, c'est probablement l'avantage d'avoir vu ça plusieurs fois. Les boîtes qui rentrent, qui sortent. Je veux dire, on a vu ça tellement de fois, c'est régulier. Bon, Edenred sortira peut-être dans 5 ans.
Et Vivendi qui sort, c'est quand même pas un signal...
Ben non, si, non, ça n'a rien à voir. Hein. Je crois que là, je ne suis pas du tout d'accord avec Virginie sur la stratégie de Vivendi. Vivendi, Vivendi, c'est un succès énorme. Hein. Mais Vivendi sort parce qu'il y a un problème de liquidité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Vivendi, ce n'est plus une société, ça va devenir une holding familiale, personnelle de la famille Bolloré. Donc, ce n'est plus un sujet pour les actionnaires. Mmh.
C'est un autre groupe. Enfin, un sujet qui vous intéresse, Marc, l'emploi.
Ah, ouais.
L'emploi, 9e trimestre.
Il ne m'intéresse pas, il me passionne.
Il vous passionne, absolument. 9e trimestre consécutif de hausse pour l'emploi français. Pour une croissance atone, c'est quand même pas mal.
Oui, alors c'est ça. Alors on pense qu'il y a un paradoxe, mais en fait, il n'y a pas de paradoxe. Hein. C'est-à-dire que, rappelez-vous, il y a un an, on est dans l'après-Covid, on a un déséquilibre majeur sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'offres et il n'y a pas de demandes. Il y a l'histoire de la grande démission aux États-Unis, mais à un moment en Europe, les changements d'habitude. Et donc, ce qu'on est en train de vivre, c'est ce qu'on appelait de nos voeux depuis un moment, c'est que le ralentissement économique permet de faire sauter tous les verrous, et notamment le verrou de l'emploi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a ralentissement économique, il y a d'abord plus de gens qui acceptent des jobs, il y a d'autre part moins de demandes parce qu'il y a moins d'offres d'emploi parce qu'il y a un ralentissement, et donc on se retrouve avec un rééquilibrage. C'était ça l'avantage, hein. C'était ça ce que prenaient les Allemands. Les Allemands disaient, il faut qu'il y ait un ralentissement, voire une récession, ils l'ont, pour que l'économie retrouve son fonctionnement normal et que tous les goulets d'étranglement sautent. Donc aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, c'est tout simplement le réajustement entre l'offre et la demande. Donc ça, c'est parfait. Ça va continuer encore quelques semestres. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours dans cet après-Covid et dans ce déséquilibre. Il y a toujours un nombre de secteurs qui n'arrivent pas à employer. Mais ce qui est très intéressant, c'est de se projeter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très clairement, que va être l'emploi demain ? À quoi va ressembler le travail demain ? Ça va être probablement la pierre angulaire de toutes les prévisions économiques dans les années à venir. Parce que vous avez d'un côté la démographie, on va pas revenir dessus. Mmh. Vous avez de l'autre côté l'intelligence artificielle. Oui. Vous avez la robotique. Mmh. La vraie question qui va se poser, vous avez la volonté de générations récentes d'avoir une place du travail qui est différente de celle qu'on avait nous. Et donc, vous allez avoir une problématique qui consiste à dire, est-ce que dans quelques années, on va avoir beaucoup de chômage ou plus de chômage du tout? Est-ce qu'on va travailler 3 jours, 4 jours par semaine? Est-ce que
le problème, c'est qu'on ne sait rien.
On sait pas.
Beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses.
Si on commence à avoir des réponses, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une course de vitesse entre la démographie et l'intelligence artificielle. Mm-hmm. C'est-à-dire, et ça, c'est simplement une question de rythme. On connaît le rythme de la démographie, on ne connaît pas le rythme de l'intelligence artificielle.
C'est encore une question, mais la réindustrialisation là-dedans?
La réindustrialisation, pour moi, elle est totalement anecdotique. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment... on parlait de choses qui étaient faites pour les médias, mais ça, c'est vraiment le sujet.
Ah, c'est pour nous, ça aussi.
Bah oui.
Il y a quelques gigafactories, quoi.
Qui tombez dans le panneau.
Virginie, aux États-Unis.
Alors, moi, je suis complètement d'accord avec toi.
Ah, ça, c'est sympa, ça me fait plaisir, Virginie.
Enfin.
Aux États-Unis, on est vraiment dans ce schéma de normalisation, mais même dans les comportements. C'est-à-dire que là, aux États-Unis, les bureaux, ça y est, sont pleins. Il y a encore 6 mois, c'était pas le cas. Et donc, il y a encore quelques poches de tension, évidemment, dans l'hospitality business, ce genre de choses. Mais on est là vraiment, et on a vu, les demandes, le marché est en train de refroidir,
mais quand vous dites tranquillement, les bureaux sont pleins, on a dû forcer les gens à revenir quand même.
Ouais.
Mais obligatoire, sinon
mais avec une perspective lors de ralentissement économique, les gens se disent j'ai moins de choix.
Surtout qu'ils n'ont plus d'épargne aux États-Unis.
Exactement.
Et donc maintenant, le côté j'ai de l'épargne, donc je fais ce que je veux, je viendrai quand je veux, tu vas au bureau, tu travailles.
Le crédit conso est en train de remonter.
Il va falloir revenir.
Ouais. Crédit conso en France aussi.
Aux États-Unis, on a eu des chiffres, notamment cette semaine, et ça remonte. On sent bien que là, on est à cette croisée des chemins. Bon.
C'est passionnant.
C'est passionnant. Ouais. J'étais passionnée par vos propos, Marc. Mais comme tous les vendredis ce soir, c'est votre argent.
C'est votre argent, ça va être incroyable.
Vous ne connaissez pas les invités?
Si, bien sûr.
C'est qui?
Ah non, mais je ne vais pas tous.
Ah bah non.
Il y en a 4.
Ouais, toutes les semaines, Virginie, vous n'y êtes pas cette semaine.
Eh bien non.
Non, elle n'a pas voulu venir. Elle a refusé.
Mais ça va être exceptionnel.
Ça va être exceptionnel. Ne ratez pas ça. C'est disponible également en pré-play et en replay tout le temps. Vous pouvez le consommer tout le temps.